Paris, mercredi 17 avril.
Alors, est-ce que tu peux parler dans ton micro ?
Est-ce que comme ça ou il faut que je me rapproche ?
Je pense que c'est trop loin, mais par contre, tu peux... Voilà, je t'ai mis un très long câble.
Wouh !
C'est... Ça a l'air jouable.
J'ai envie d'être adossée.
C'est pour vas-y, adosse-toi et puis je
comme ça, c'est bien ? Comme ça ?
Ouais, je pense. Vas-y,
Là, si je parle, est-ce que le volume est bon pour toi ?
Ouais.
C'est OK ?
Allez, je vais lancer.
OK.
La carte et le territoire. Un podcast de Clémence Bayot d'Estivo.
Myrtille Hetzel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Carte et le Territoire, le podcast consacré aux acteurs et actrices du monde de la musique et à leur relation au territoire. Aujourd'hui, je reçois Myrtille Hetzel. Bonjour Myrtille.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu oui à mon invitation.
Avec plaisir.
Merci d'être là. Myrtille, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te demander de te présenter et de nous raconter ce que tu fais dans la vie.
Je suis violoncelliste. Je suis musicienne. Je fais aussi beaucoup de théâtre. Voilà, donc j'ai une activité assez multiple dans le monde artistique, ce qui me permet de m'épanouir dans chacun de mes projets, puisque chaque projet nourrit l'autre.
Dans différents styles et dans différents mondes artistiques, on peut le dire, du coup.
Oui, je participe assez activement à la création contemporaine en musique. Je fais partie de l'ensemble d'Itinéraire depuis un peu moins de 10 ans. Je fais aussi de la musique de chambre et de l'improvisation. La classe d'improvisation m'a beaucoup ouverte au conservatoire après mon prix de violoncelle, donc formation tout à fait classique. Et ça m'a permis de pouvoir me libérer aussi de la partition, d'avoir un autre rapport au texte, d'avoir un autre rapport à la scène. Et en parallèle, j'ai découvert aussi la création théâtrale et l'écriture au plateau. Donc j'ai pu participer à plusieurs créations de spectacles qui ont beaucoup tourné. Et ça m'a permis de faire une sorte de grand écart entre le monde classique, la création contemporaine d'un côté et la création théâtrale de l'autre.
Avant qu'on aille plus loin sur ces sujets, je vais te demander ce que signifie pour toi le mot territoire, sachant que tu peux donner plusieurs pistes.
Territoire, ce serait d'abord pour moi l'aspect géographique. Donc c'est autour d'une ville, je dirais. C'est pas forcément le centre, c'est pas forcément un pôle... vers lequel on serait attiré, mais c'est plus ce qu'il y aurait autour et ce qui n'aurait pas forcément de frontières ou de limites, un territoire. Après, il y a des territoires sonores. Je me souviens qu'on avait nommé un de nos concerts à l'itinéraire territoire du son. Donc on peut aussi parler territoire quand ça convoque une sorte d'identité commune ou de socle commun à des êtres ou à des objets artistiques.
Comme une langue ?
Comme une langue, par exemple, oui. Comme une langue, comme un langage, comme une expression dans laquelle tout le monde peut naviguer.
Et toi, dans ce sens-là, du coup, quels seraient les territoires dans lesquels tu parviens à naviguer ? Si tant est qu'on puisse un jour dire je navigue parfaitement à l'aise dans tel monde musical.
Ben moi j'aime bien verser dans un territoire ou dans un autre et j'aime bien apporter un peu un territoire dans un autre et dans ma vie, enfin en tout cas dans ma vie artistique, je passe mon temps à faire comme une sorte d'entonnoir et à laisser infuser les choses dans une matière précise et ensuite à la va pouvoir la renverser dans un autre projet. Donc ça me parle, oui, cette notion de territoire, de non-appartenance aussi, et de liberté de circulation, en fait. Donc c'est vrai que ça, là, c'est des termes qui sont un peu plus... qui peuvent aussi se transposer au monde des frontières, au monde actuel, en fait, un peu à la politique, avec tous ces mouvements qui sont faits, ces mouvements géographiques qui sont faits par les populations, et qui pourraient être source de richesse en premier lieu, si on
changeait de lunettes.
Exactement.
Dans ta vie de musicienne, tu te considères comme interprète ou créatrice ou entre les deux ?
Oh, je pense que je suis une interprète. C'est ma formation et j'y suis attachée. Et même si en fait la vie me mène ailleurs, mais j'oublie pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Je suis très attachée à mon instrument quand même. Donc j'ai vraiment un rapport quand même fort à mon instrument, au travail de mon instrument. J'en ai besoin.
Comme une hygiène de vie ?
Oui, comme un retour aux sources aussi, puisque évidemment on commence tôt. Moi j'ai commencé à 5 ans et j'ai jamais arrêté, donc... J'y suis attachée. À chaque fois, c'est un retour. C'est comme un retour à la maison. Et du coup, oui, je me considère quand même comme interprète en premier. Puis c'est ça qui m'a tout simplement fait gagner ma vie et voilà, fait entrer dans le milieu dont je rêvais et qui ne m'a pas déçue, moi. Donc même si j'en suis un peu sortie et tout, c'est vrai que c'est pas du tout la déception qui m'a conduite à vers d'autres horizons. Donc pour ça, je suis assez épanouie toujours en tant qu'interprète. Et voilà, donc je peux tout à fait aussi entrer dans ce... Voilà, dans ces codes-là et faire des concerts classiques qui vont me nourrir beaucoup, parce que cette musique est pour moi, oui, indispensable. Enfin, à mon oreille et à mon... Et à, voilà, à mon hygiène instrumentale, effectivement. Même si, voilà, je ne cesse de m'en éloigner, de m'en servir pour rebondir vers autre chose, justement la création. C'est toujours ce grand écart, en fait, que j'ai l'impression de faire dans ma tête. Grand écart sur l'instrument, donc d'avoir une formation classique, mais d'être allé vers l'improvisation, vers la musique contemporaine, qui demande d'autres modes de jeu, évidemment... des techniques qui sont autres que celles qu'on apprend quand on est enfant, et même quand on est au conservatoire d'ailleurs, et puis ensuite carrément, enfin, pouvoir jouer voilà, sur des plateaux de théâtre, donc ça veut dire même la posture qui va changer, plus de partition, ou en tout cas de très loin, une partition lointaine, et puis tout de suite être dans un propos, dans un sens, dans un autre, dans ce qu'on donne à voir. Plusieurs metteurs en scène, je pense notamment à une metteuse en scène qui parle de regarder la musique. Donc nous sommes interprètes sur leur scène, mais nous sommes aussi des sortes de personnification, peut-être.
Déjà, nous sommes un corps en mouvement aussi.
Exactement.
Sur scène.
Exactement.
Est-ce que c'est ça qu'elle veut dire, ou elle parle encore d'autre chose ?
Aussi, la plupart des metteurs en scène, en tout cas avec qui j'ai travaillé, ce qui était très agréable, c'est qu'ils ne cherchaient pas du tout à gommer. Je pense à Benjamin Lazare, par exemple, dans La Traviata, qu'on avait créé au Bouffe du Nord en 2016, je crois. Qui cherchait pas du tout à gommer en fait les intentions musicales qu'on se donnait, puisqu'on était très éloignés au plateau. On n'était pas un groupe de musique de chambre typique, donc on était voilà, en mouvement sur scène, des postures debout ou sur des tabourets beaucoup trop bas ou à moitié debout, enfin. Et puis éloignés les uns des autres, ce qui nous demandait voilà, des signes particuliers, des respirations, des gestes. Et donc, c'était agréable de sentir que ces gestes étaient incorporés quoi, dans l'action, quoi, et pas du tout avec une volonté de gommer, de faire attention à pas trop bouger, à pas trop faire de mouvements. Au contraire, ça faisait respirer l'action, je pense. Le fait qu'on soit des musiciens qui prenions toute cette place quoi, sur le plateau.
Toi, au niveau des sensations, c'était comment d'être aussi loin des autres musiciens et musiciennes ? Je dis ça parce que j'ai vu la Traviata mm-hmm. au Bouffe du Nord. Mm-hmm. Donc effectivement, avoir une disposition assez éclatée sur un plateau, c'est pas forcément confortable quand t'as pas de retour ou de ears.
C'est vrai. Bon, déjà, il y a une acoustique incroyable au Bouffe du Nord. Oui. Donc pour toute la musique de chambre, toute la musique acoustique, c'est assez exceptionnel. On a une cage de scène aussi qui sonne très très bien. Quand on est au fond, il faut même veiller à ne pas trop couvrir ce qui se passe au devant de la scène. Ben, faut tenir compte d'un petit délai ou d'une possible inertie entre les basses et les aigus, par exemple. Toujours anticiper les phrases, je veux dire, musicales, bon, aussi les phrases, en fait, dites, puisque on tricote, voilà, le fil de l'action et puis l'accompagnement de Verdi, réarrangé hein, par Florent Hubert et Paul Escobar d'ailleurs, mais voilà, qui ont fait une partition sur mesure par rapport aussi au personnage de Violetta, qui est aussi tiré du roman d'Alexandre Dumas, enfin, voilà, qui est plusieurs personnages, plusieurs femmes hein, du 19e, réunies dans cette Violetta particulière de ce spectacle. Donc, oui, pour revenir à la question de l'espace, un petit délai qui est à prévoir, mais bon, on a un peu l'habitude de ça, et puis d'anticiper, de beaucoup se regarder, il y a beaucoup d'échanges de regards entre nous, il y a des petits pôles aussi de musiciens, on est par groupe, on est rarement seul, enfin, quelquefois on est éclaté aussi seul, mais on arrive à... Puis on a énormément travaillé de toute façon, donc il y a un moment où ça roule. En fait, la partition de ce spectacle, elle est venue se calquer sur la partition de Verdi, parce que j'avais beaucoup joué aussi l'opéra de Verdi en fausse, mais c'est vrai que du coup j'ai deux versions de la Traviata en tête, quoi. Et d'ailleurs dans le corps aussi, puisque quand on a repris cette année la Traviata, j'avais assez peu révisé dans ma chambre, je dois le dire, et j'arrivais pas à retrouver les notes sur mon tabouret dans ma chambre. Je les ai retrouvées que au plateau quand il fallait se déplacer, où là les doigts de la main gauche défilaient tout seuls et se souvenaient exactement de quelle.
C'est marrant.
Ouais, c'est incroyable. Là, c'est la mémoire du corps qui a été vraiment au rendez-vous. On l'avait joué énormément de fois, hein, 140 fois ou 130 fois. Sans s'en lasser d'ailleurs. Et oui, il n'y a que sur un plateau, assise sur tel tronc d'arbre ou telle bûche et me déplaçant de cour à jardin, que je me souvenais de quelle note il fallait jouer. Donc c'était
donc
assez
en fait,
fou.
Tu ça. Ne peux pas le travailler. C'est ça.
Tu exactement. Ne peux pas répéter enfin, ça. En tout cas, ça ne sert pas forcément à grand chose d'être de plusieurs heures devant un texte pareil sur mon pupitre, puisque. C'est entremêlé complètement avec l'action.
Est-ce que ce serait pas transposable à d'autres cas, par exemple, je sais pas en quoi tu raccordes, est-ce qu'il faut passer des heures et des heures seul sur son pupitre, enfin sur son tabouret devant son pupitre ?
Il faut passer des heures à quatre.
Oui.
En quatuor, je pense. évidemment qu'il y a un travail de préparation, hein. Individuel sur nos partitions, mais j'ai l'impression que c'est le travail à quatre avec les réflexes communs qu'il faut travailler. Toutes ces clés, c'est ça, c'est faire une seule musique avec ces quatre instruments. Donc, et puis c'est la confusion des quatre cordes, enfin la confusion au sens noble, je veux dire,
La communion.
Voilà, la communion, la fusion, et aussi la confrontation, suivant les partitions qui sont... qu'on a devant nous, il se peut aussi qu'il y ait des... Ce n'est pas seulement une recherche de fusion, c'est aussi... Il y a aussi des parties singulières et qu'il faut mettre en avant, enfin, j'imagine. Donc c'est... Oui, non, je pense que dans tout projet commun, de toute façon, c'est un travail commun qui est fait très en amont, et c'est les personnalités qui sont là et qui font que c'est cette musique-là, ou qui font que c'est ce spectacle-là pour la Traviata, parce que c'est vraiment du sur-mesure.
Personne n'est remplaçable dans la Traviata.
Si, tout le monde est remplaçable, bien sûr. Mais si tout le monde était remplacé en même temps, ce serait un autre spectacle. Et si, on a déjà remplacé, déjà au sein de la même équipe. Enfin, c'est-à-dire, c'était assez intéressant d'ailleurs, parce que Élise Chauvin, qui jouait le rôle de Flora et d'Anina, a remplacé dans la Traviata, dans le rôle de Violetta. Juliette Séjourné, qui était assistante à la mise en scène et qui chantait aussi et était actrice, a remplacé Flora Anina à ce moment-là. Enfin voilà, il y a eu des échanges au sein de la même équipe. Et donc ça restait la même famille. Et donc, même si, bien sûr, il y a eu un peu un autre spectacle avec ces personnages qui ont changé, quoi, qui ont tourné, mais ça restait quand même le même objet. Mais voilà, en tout cas, cet objet existe, oui, parce que les arrangeurs ont fait aussi avec les personnalités des musiciens qui étaient là. On était très mélangés, hein. On était trois ou quatre issus du milieu classique. Ensuite, il y avait pas mal de musiciens de jazz, trombone, accordéon, enfin qui composent aussi, qui sont plus des musiciens de jazz, musiciens de fanfare aussi ou de rue. Enfin voilà, il y avait vraiment... tout ce panel-là, et très vite, avec l'apprentissage du par cœur et justement l'éloignement de la partition, même si on a travaillé des choses telles que la justesse, le son et tel coup d'archet et telle longueur d'archet, on a fait un son, on a essayé d'inventer un son qui pouvait être le plus chargé possible de toutes ces personnes, quoi. Voilà.
On va rembobiner un petit peu. Je vais te demander de te saisir de l'atlas qui est à côté de toi pour que tu me racontes ton histoire géographique, point par point ou page par page, comme tu le souhaites. L'ordre chronologique peut être simple à suivre, mais tu peux en choisir un autre. Tu peux choisir continent par continent si ça te paraît plus pertinent.
Donc je prends toute la carte du monde, là.
Si tu veux,
par exemple. Alors, je suis née à Paris, que je vois en tout petit au milieu.
Qui est littéralement le centre du monde sur cette carte.
Exactement, le centre du monde. C'est incroyable. Oui, les échelles et les... et les points cardinaux sont pas forcément... Donc Paris est au centre. Donc c'est mon lieu de naissance et c'est là que j'ai fait tout mon parcours de musicienne, hein. Et puis parcours passant par les conservatoires d'arrondissement de Paris, puis de banlieue de Paris.
Vas-y, tu peux développer, hein, ça. Moi, ça m'intéresse.
Ah oui, bah, alors j'ai commencé d'abord en particulier pendant 2 ans.
Oui, parce qu'à 5 ans, c'était un peu jeune pour commencer en conservatoire, peut-être.
Oui, c'était un peu jeune. Et puis, on est une famille nombreuse, donc mes frères et sœurs avaient tous un instrument déjà dans la main. On avait une grande différence avec les plus grands frères. Une grande différence d'âge, donc il y avait un piano à queue à la maison, et puis j'entendais quand même de la musique depuis toute petite, donc j'avais aussi le souhait d'en faire, j'avais hâte aussi de choisir mon instrument. C'était un peu le deal avec mes parents, quoi. Je sais pas qu'on
et tes fasse. Parents faisaient de la musique aussi?
Alors ils n'étaient pas musiciens, mais je pense qu'ils auraient aimé peut-être faire un instrument quand ils étaient petits. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion de le faire, donc c'est vrai que Ils nous ont mis à la musique. Et
ça a bien pris.
Et ça a bien pris, ouais, ça a bien pris. On est deux à être professionnels. J'ai un grand frère qui est compositeur de musique de film et qui joue du piano aussi. Pianiste aussi, et improvisateur, compositeur. Et donc oui, je l'entendais travailler son piano, j'entendais aussi du violon, j'entendais un peu de harpe. Enfin voilà, donc c'était riche quand même de musique à la maison. Et donc, tout simplement, on est allé rue de Rome, parce que ma mère savait que c'était la rue des musiciens. On a pris une annonce et on est allé vers ce professeur, ce premier professeur, Jean-Renaud Lotte, qui m'a donné deux ans de cours particuliers et où j'ai beaucoup progressé, je pense. Parce que je me souviens que je lisais les notes avant de lire quasiment les lettres, hein, enfin, en même temps. Et puis que j'avais appris la clé du quatrième assez tôt aussi avec lui. Donc c'était, voilà, c'est rigolo ces souvenirs hein, d'avoir appris un peu tout. Bah, il n'y avait pas de FM, donc on faisait tout au cours. Et j'avais passé un petit concours, le concours Bélan, au bout de deux ans. Et je me souviens d'ailleurs qu'il n'y avait pas de chaise à ma taille et qu'il m'avait assise sur une corbeille en papier renversée qui s'était effondrée au milieu de ma prestation. Donc c'était... Voilà, c'était
très beau souvenir.
Mon premier concours Bélan avec des dames au jury très intimidantes et puis cette poubelle qui se...
Et toi qui jouais avec le décor déjà.
Qui s'affaisse sous mon poids, exactement. Bref, et donc voilà, après j'étais au conservatoire du 12e pendant très longtemps, de mes 7 ans à mes 19 ans, puisqu'après j'ai continué avec le piano au conservatoire et donc là j'avais vraiment soif de musique. J'avais un professeur qui m'avait mis sur mon bulletin boulimique de musique, boulimique, Hervé Derrien, qui était soliste à l'Orchestre National de France, et qui m'avait emmené à Orange d'ailleurs, assister aux répétitions de Don Giovanni. C'est mon premier souvenir aussi très très fort d'opéra et de concert. Mais en tout cas, j'avais vraiment soif d'écouter de la musique. Je me souviens que j'allais à tous les... Ça s'appelait les mardis musicaux au conservatoire du 12e et que j'allais écouter les auditions de toutes les classes. Classe d'alto, classe d'accordéon, classe de piano, classe de musique de chambre, classe de percussion. Et donc du coup, je me suis fait une sorte de... Ouais, de culture, de répertoire, enfin, très petite, quoi. Et puis, première session d'orchestre aussi, avec Jean-Michel Ferrand, le directeur. Donc, pareil, dans mon parcours, quand même, très, très important pour moi. Les premiers concerts, les premiers opéras. On avait fait, d'ailleurs, une Traviata. On avait fait des opérettes de Franz Lehár, je me souviens. Offenbach, La Belle Hélène. C'était comme ma maison, quoi. J'étais vraiment au conservatoire. Ensuite, j'étais en horaire aménagé, j'allais au conservatoire travailler. Je séchais énormément les cours ensuite au collège et au lycée, et j'allais au conservatoire. Donc, heureusement qu'il y avait le conservatoire qui me permettait de faire ma musique et de rencontrer les jeunes de mon âge qui faisaient aussi ça sérieusement. Voilà, ensuite j'étais au CRR d'Aubervilliers avec Florian Loridon. J'avais été donc un peu en échec scolaire, donc voilà, le violoncelle m'a toujours un peu servi de repère, hein, de tuteur pour que je puisse quand même progresser dans un domaine et rester sur la route, parce que faut être fort jeune, enfin, c'est quand même...
Et puis rester très exigeante, mine de rien, parce que
ouais.
On sait que la musique classique, c'est une énorme exigence personnelle,
ouais.
Une astreinte même, enfin, je pense qu'on peut
dire que c'est bien sûr, des sacrifices,
une discipline énorme.
Une certaine autonomie, très jeune aussi, quoi. C'est vrai qu'on est seul dans notre chambre ou dans notre salle du conservatoire avec notre pupitre pendant des heures. Donc, bien sûr, il y a cette autonomie très jeune qu'on nous demande. En plus, en France, il y a les limites d'âge pour le CNSM, quand c'est le rêve de tous les adolescents et adolescentes de rentrer dans ce grand conservatoire, même si on se rend compte plus tard qu'il n'y a pas que ça du tout. Il y a deux conservatoires en France, mais qu'après, partout en Europe, il y a plein d'autres conservatoires qui n'ont pas du tout la même limite d'âge. Donc c'est vrai qu'il y a cette exigence très tôt, cette perfection technique à acquérir avant 21 ans, et que donc moi avec la période adolescente et tout, c'est pas facile, quoi, faut pas prendre de retard. Donc Aubervilliers, et puis ensuite je rentre au CNSM Donc c'est Florian Loridon qui m'a préparé au CNSM. Et donc ensuite, voilà, j'ai passé mes années au CNSM. Pareil, j'ai passé beaucoup d'années et j'ai fait du violoncelle, mais j'ai pris toutes les options aussi possibles et imaginables. Voilà, parce que j'étais curieuse, je pense. Je faisais aussi du chant et du piano.
Du chant lyrique ?
J'ai fait l'option de chant et ensuite je me suis mise au chant lyrique plus tard aussi à Aubervilliers. Mais plus tard, après le conservatoire. Mais ça m'a servi tout ça après. Mais je ne le savais pas. C'est ça qui est... c'est qu'en fait, les options que j'ai prises, etc., enfin, la classe d'improvisation, la musique indienne, un peu de jazz, enfin, tout ça m'a beaucoup servi après. Mais je ne savais pas ce que je ferais. Moi, j'avais passé quand même des concours d'orchestre. J'ai passé le CA, puis j'ai passé des concours, puis j'ai beaucoup joué en orchestre, dans la fosse, à l'opéra. Ça m'a énormément formée. C'est l'orchestre qui m'a formée à ce métier. Enfin, et j'adorais et j'adore toujours. Mais c'est vrai que ce qui me sert le plus aujourd'hui, c'est plus les à côté, j'ai envie de dire, enfin, qui sont devenus l'objet principal de ma vie artistique. Donc c'est drôle.
Donc t'as bien fait de dire pourquoi pas.
Exactement.
À cette époque-là.
Ouais. Bon, il y avait aussi une petite fuite peut-être par rapport à, enfin voilà, mes cours de violoncelle qui me satisfaisaient pas et où j'avais besoin de me sentir peut-être accompagnée d'autres manières aussi, par d'autres professeurs, par d'autres personnalités. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que dans les conservatoires où j'étais, j'ai utilisé le dispositif qui était à notre porté, quoi. Je l'ai vraiment utilisé. Enfin...
Et pas d'Erasmus ?
Non, j'ai pas eu cette occasion-là. À un moment, j'avais demandé vaguement Helsinki, ça n'avait pas marché. J'étais pas extrêmement accompagnée, donc j'ai pas réussi à mener à terme mes dossiers, mes envies du moment d'aller faire des masters ailleurs. Mais bon, je le regrette pas parce qu'en fait j'ai commencé à travailler à Paris du coup et dans les environs, et donc pour en revenir à la carte, j'ai eu mes premiers projets d'ailleurs de musique contemporaine qui m'ont mené assez loin. J'avais un groupe de musique contemporaine en Espagne. Pareil, j'avais pris les options de session d'orchestre qui était très variée. Donc moi, je faisais le choix des sessions contemporaines parce que j'étais ouverte à ça. Bon, j'avais aussi le compagnon de ma mère, hein, il faut dire, qui était compositeur, Emmanuel Nunes. Donc du coup, ça m'a aussi quand même... C'est vrai que je connaissais l'existence de l'IRCAM avant beaucoup d'étudiants. Ouais. Enfin, ça m'a...
Ça faisait partie de ta sphère intime.
Voilà, c'est exactement. Donc du coup, je prenais... Voilà, je mettais en premier choix les sessions contemporaines, alors que pour beaucoup d'élèves, surtout des cordes, c'était un peu la punition, quoi. T'as pas rempli ta feuille avec les choix de session, bah tu vas faire la session contemporaine.
Alors que toi, c'est ce que t'avais choisi en premier.
Voilà, c'est ça. Donc c'était aussi une particularité, mais qui m'a beaucoup servi après. Donc oui, j'ai eu un ensemble en contemporain en Espagne, avec lequel je suis partie au Mexique, en République tchèque, et puis en Espagne et au Portugal. Et puis ensuite, j'étais dans l'ensemble itinéraire. Donc là aussi, on a fait quelques beaux voyages. Enfin, mon premier concert, c'était en Suède. Et puis, on est allé là très récemment, à San Francisco, invité par le professeur de composition de Berkeley, Carmine Cella. On avait fait un projet à l'IRCAM, une composition de lui sur la mort de George Floyd. Parce qu'il était, je crois qu'il était là-bas à ce moment-là, puis qu'il avait vécu le confinement là-bas. Et donc il a composé, imaginé toute une musique avec des capteurs qui étaient sur les instruments. Des capteurs, des phrases aussi à voix haute, enfin toute une chose qui nous plongeait un peu dans un drôle de...
Dans l'étouffement de George Floyd.
Oui, une drôle de sensation sur la scène, avec une lumière aussi dans cette musique, quand même. Mais oui, quelque chose quand même d'assez oppressant, d'un peu figuratif. Enfin, voilà, c'était. Ouais, c'était un projet qui. Voilà, qui touchait. Qui nous touchait, quoi, humainement, et qui avait une portée politique très importante. Et j'ai trouvé ça très important, d'ailleurs, d'avoir un compositeur qui avait la présence d'esprit de s'emparer de ça avec le mouvement qu'il y a eu après sur les Black Lives Matter, etc. Enfin, c'est vrai que c'était. Bah, c'est un acteur de notre temps, quoi. Donc, il nous fait. Enfin, il nous fait jouer quelque chose qui a résonné dans le monde entier. Enfin, et voilà, et on a pris part à ce mouvement qui s'est soulevé, quoi, à notre petite échelle. Voilà. Mais voilà, donc après, il nous a invités à San Francisco. Et voilà, ça fait partie des. Voilà, de ces voyages où l'itinéraire peut aussi enfin, voilà, importer un peu cette. Cette musique spectrale dont il est le fondateur. Donc voilà, des beaux voyages avec la création.
Et ce sont tes premiers voyages?
Hors de France, oui. J'étais allée en Irlande quand même, en camion avec mon père, parce qu'on faisait beaucoup de camping sauvage. Donc j'étais allée en Irlande et en Espagne, je crois. C'est tout, quand j'étais enfant. Pas pris l'avion avant un certain temps. J'avais fait aussi un stage en Sardaigne avec Philippe Muller, avec ma boîte d'avion qui pesait une tonne et que j'étais seule à l'aéroport avec cette boîte à roulettes.
La surboîte noire, là.
La surboîte, la fly case marron d'orchestre qu'on avait louée à mon luthier. Et je me souviens, j'avais 16 ans, j'étais à l'aéroport. Wow,
avec ce truc énorme.
Ouais, mais bon, un beau voyage aussi. Ouais, avec des gens qui venaient d'un peu partout prendre cours avec Philippe Muller. Ouais, c'était passionnant. Ces masterclass. Et puis donc voilà, ouais, j'ai pu voyager aussi en Toscane aussi avec Philippe Muller à Cagliari. Jeune, assez jeune. Mais ensuite, les plus grands voyages, donc c'était ceux-là avec la musique contemporaine. Je suis allée en Colombie aussi. Avec un projet d'opéra. Je suis allée en Chine avec La Traviata. On est allé jouer à Shanghai. Donc, les sous-titres, les immenses salles. Pas forcément remplies d'ailleurs, mais les immenses salles de Chine, Shanghai. Puis ensuite, Tianjin et Harbin, où il faisait moins 15 degrés. Moins 15, moins 20 degrés la nuit, je me souviens.
Qu'est-ce que ça t'a laissé comme impression, la Chine?
Ça m'a laissé déjà deux grosses fentes sur le violoncelle en rentrant.
Cool.
Belle cicatrice. Parce qu'il avait passé la nuit dans un camion de décor.
T'as dû être contente en ouvrant ta
porte. Ouais. Bah, c'est très très grandes salles qui sont remplies pas tout à fait de moitié. Donc ça, c'est particulier quand même d'avoir à la fois le luxe. La beauté de ces salles, la salle de Harbin qui ressemblait à une soucoupe volante au milieu des steppes, l'intérieur qui était incroyable, et puis les salles qui étaient peu remplies, hein. D'ailleurs même pour l'orchestre de Vienne qui jouait la veille de notre passage, c'était pas spécialement rempli, donc c'est voilà, c'est particulier, c'est aussi le signe aussi de la richesse apparente, enfin qu'on peut voir à Shanghai d'ailleurs. Hein, d'une rue à l'autre, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. On peut voir un centre avec tous ces gratte-ciels incroyables, ces énormes écrans de pub et tous ces costards, enfin, qui se déplacent très pressés, et puis dans les rues un petit peu plus loin, les poules, la nourriture dans la rue, enfin voilà, les petits boui-boui. On peut voir à l'œil nu, en fait, le manque de. Peut-être une certaine. Enfin, des classes sociales, quoi, qui sont très extrêmes, en fait. Assez peu de classes moyennes, finalement, de ce que j'ai entendu. Et puis, beaucoup, beaucoup de pauvreté, et puis une poignée de richissimes. Et donc, oui, quand on va jouer là-bas, peut-être qu'on peut sentir un peu cette drôle d'ambiance.
Et Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une dimension politique dans les choix de projets que tu fais?
C'est vrai que dans le domaine de la recherche, là où il y a quelques aides, on a l'occasion de partir peut-être plus facilement. Création, même si en fait elle est aussi en danger, hein, mais c'est avec ces projets-là que j'ai pu partir. C'est comme je le disais, par exemple, le fait de pouvoir exporter des œuvres, des créations d'œuvres françaises, ou le fait que ça puisse. Enfin, que ça puisse pas. Encore une fois, tout le monde est remplaçable, mais que ça puisse être plus difficile d'être joué par un autre groupe à l'étranger, ça fait que voilà, on a une certaine légitimité entre guillemets, à partager une création française, musicale ou théâtrale. Après, il y a beaucoup d'échanges aussi qui sont intéressants. Donc ça, c'était le cas par exemple avec l'ensemble de Göteborg. Qui sont venus à Paris. Nous, on est allés aussi là-bas pour jouer des pièces de Griset et qui demandaient un effectif un peu large. Donc ces échanges-là, effectivement, ils sont précieux. Et donc à ce moment-là, voilà, on rencontre vraiment les musiciens contemporains de la ville où on va, et c'est toujours passionnant. Parce que ce sont toujours des musiciens un peu atypiques, en fait. Même... Par exemple, Göteborg, il y en a qui sont aussi dans l'orchestre symphonique, mais ce sont toujours des musiciens qui ont quand même soif de faire de la musique nouvelle, de la musique actuelle, dans des salles aussi plus petites. Enfin, c'est aussi plus confidentiel, hein, le public, mais voilà, le fait d'avoir ces échanges et ces moments de partage, c'est extrêmement précieux pour... Enfin, on se sent dans aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de me sentir dans aujourd'hui avec ces créations, avec... les compositeurs qui sont vivants, avec ces échanges, qui nous poussent dans nos retranchements en tant qu'interprète, et du coup, ça me fait aussi boucler la boucle par rapport au fait que je suis une interprète en premier, mais que, bien sûr, avec le travail des compositeurs et tout, on se rend compte qu'on propose énormément de choses, qu'on est amené à improviser énormément pour eux aussi, enfin, et que du coup, moi, je ne suis pas à table à écrire, mais en réalité, même dans d'autres projets de théâtre, etc., j'improvise énormément. Donc finalement, la musique, elle finit par sortir de moi directement. Et c'est, voilà, je deviens ce vecteur-là, pareil, d'une manière assez fluide, en fait.
Et inversement, est-ce qu'il y a d'autres cas dans lesquels tu as l'impression de jouer de la musique d'hier, ou en tout cas de faire... d'être dans une situation anachronique? T'es pas obligé de donner de nom dans ce cas-là.
Bien sûr. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais encore une fois, moi, j'ai eu la chance de participer à des grands concerts aussi symphoniques, par exemple, ou à jouer dans la fosse de l'opéra, comme je le disais. Donc évidemment, une Traviata avec sur scène un lit, une armoire et la partition de Verdi avec ce style, ce bel canto, enfin voilà, bien sûr il y a ces codes là, mais moi je les trouve pas poussiéreux pour autant. Je dirais pas qu'il faut dépoussiérer la musique classique, et malgré tout c'est ça qui m'a, enfin je sais pas, qui m'a nourri, donc non j'y retourne avec énormément de bonheur. Et après, oui, bien sûr, par exemple dans les mises en scène, il y a aussi beaucoup de nouveaux à apporter, enfin, et on le voit d'ailleurs dans les mises en scène qui sont proposées aujourd'hui. Mais c'est vrai que la partition, on n'y touche pas. Donc, enfin voilà, dans ces institutions, ce sont des institutions qui sont aussi faites pour ça. Enfin, et donc, on touche pas aux partitions. Donc, effectivement, c'est le grand écart, encore une fois. Et j'y retourne comme pour me... Oui, c'est ça. Ça me fait... sur un territoire très connu, très familier et très que je trouve très beau aussi.
T'as dit que t'avais passé ton CA. Je crois que t'es la seule personne que je connaisse qui ait passé son CA à la limite du par hasard. Est-ce qu'on peut parler un peu d'enseignement et de... peut-être de ta vie d'élève, si tu veux, on peut partir de ça. Et ensuite de ta vie d'enseignante qui est agitée.
Oui, j'ai quelques élèves là cette année, et puis c'est vrai que je me suis servi de mon CA assez partiellement jusqu'à maintenant, donc ça ne veut pas dire que... Enfin, en fait, j'aime enseigner, hein, mais c'est juste après la vie de tournée qui me permet pas forcément de faire beaucoup plus de place, en tout cas, à cette partie-là de mon métier, mais que je trouve importante, bien sûr. Et moi-même, j'ai changé beaucoup de professeurs, en fait, donc j'estime pas avoir eu vraiment de maître ou d'un professeur qui m'a formé, voilà. C'est peut-être pas plus mal, hein, mais en tout cas, je peux pas dire que j'ai été formée par une personne.
Ça évite d'autres biais, je pense.
Exactement. Ouais, probablement. Après, oui, le fait de transmettre et aussi de, enfin voilà, d'être une prof qui joue quand même souvent. Je pense que ça apporte aussi aux élèves. Enfin, ça leur ouvre, je pense, des perspectives, même s'ils veulent pas forcément faire ça plus tard, hein, du tout. Mais je pense qu'ils me voient aussi aller un peu par Mons et par Vaux, et puis qu'ils sont venus assister aussi à des projets. Notamment, je pense à un concert Beethoven que j'ai fait à la cartoucherie l'année dernière. Enfin, j'ai fait tout un cycle des sonates, mais où on a un petit peu mis en scène le concert. Donc ça, c'était aussi une manière, voilà, de jouer à la fois des sonates de Beethoven tout à fait, de manière tout à fait classique et respectant complètement la partition, et à la fois voilà, de mettre en espace. Il y avait des tables avec, enfin, le public était autour de nous, pas seulement dans les gradins. Il y avait les textes de Lieder de Beethoven que j'ai transcrits, qui étaient visibles. Il y avait, enfin voilà, on a joué, on était sur le thème des Lieder de Beethoven, donc il y avait aussi, on a joué aussi une ou deux chansons d'aujourd'hui, chansons d'amour, parce que c'était les Lieder à une bien-aimée lointaine. Donc voilà, on demande au public de participer un peu, enfin, je sais pas, il y a des enfants, il y a des élèves, et le fait qu'ils nous voient de si près aussi, ils sont autour de nous, ils nous voient très près, ils nous entendent respirer, ils nous voient tourner nos pages, enfin, je sais pas, ça, je pense que ça leur... ils regardent la musique, c'est un peu ça aussi, ils regardent la musique, ils nous écoutent en parler parce qu'on prend la parole... je me suis mise à chanter même à un moment. J'ai osé de ma place, de mon tabouret, écarter mon violoncelle de moi et de me mettre à chanter des phrases de Lied. Enfin voilà, donc bon, c'est sûr que s'ils me voient dans cette action-là, ça leur permet de penser que voilà, le cours de violoncelle est extensible.
Oui.
Et leur pratique l'est aussi. Et du coup, voilà, j'essaye de...
Et qu'être prof de violoncelle, c'est pas ne pas être violoncelliste.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais tous les profs que je connais ont quand même une activité très riche. Et c'est vrai que c'est une aberration de séparer ces deux mondes, encore une fois. Enfin, bien sûr, c'est... de toute façon, c'est aussi de la transmission. Enfin, c'est la transmission orale et, bien sûr, avec des mots qui sont adaptés... aux âges et au savoir, à la technique, au savoir qui est déjà existant chez l'élève, mais ça reste quand même un rapport aussi côte à côte, je dirais, peut-être.
Oui, côte à côte plutôt qu'un rapport hiérarchique de maître à élève.
Oui, c'est
avec
ça.
Avec un abreuvoir.
Oui, il n'y a pas tellement la notion de maître. Même s'ils ont quand même conscience de l'exigence quand même. Ils progressent au cours, hein, mais ils sentent bien aussi d'un cours à l'autre que voilà, c'est évidemment pas le cours d'échecs ou de poney, et qu'il faut une
pratique individuelle.
Il faut une pratique individuelle, mais je crois que bon, ils le savent. On a des chams, il y a plein de dispositifs quand même qui sont là pour ça.
Est-ce qu'on peut le dire, en ce moment, t'es au CRD ou C, je sais plus, de Montreuil.
Oui. CRD.
CRD de Montreuil.
Oui, c'est ça. Ouais, j'ai quelques heures. Alors, j'essaie de les faire jouer. J'essaie de les faire s'accompagner les uns les autres. Ça, c'est super important aussi. Du coup, ils apprennent cette année, notamment que le violoncelle, un peu comme je faisais pour la musique de Beethoven, le premier volet qui s'appelait violoncelle obligée, parce que le violoncelle passe du rôle de basse continue au rôle d'instrument qui chante, enfin, il s'élève au rang de soliste un peu à cette période-là de l'histoire de la musique. Et donc, en parallèle, oui, les élèves accompagnent autant dans les vieilles partitions de Feuillard que dans d'autres parties qu'on peut inventer nous-mêmes. Mais il y a une partie de basse, une partie de chant. Donc, ils se rendent compte qu'ils peuvent intervertir, qu'ils peuvent accompagner les plus petits, qu'ils peuvent faire des séances de lecture entre eux. Et... Non, il y a une joie, je pense qu'il y a une joie sur leur instrument aussi, voilà, d'être un peu spontané, de lire ensemble, de s'accompagner les uns les autres. Bon, j'ai essayé de faire ça cette année.
Bah, chapeau, voilà. Parce que c'est déjà pas évident. De...
Oui, bah, c'est un peu... Les parents sont tolérants avec mes changements de planning à répétition.
Et t'arrives à intégrer l'impro, la pratique libre, dans ton enseignement ?
Alors, j'avoue que je l'ai pas encore vraiment exploré. Ce serait à faire par manque de temps et d'organisation, mais j'ai des élèves que ça intéresserait, je pense. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas... Un peu comme la musique contemporaine, d'ailleurs, j'aurais donné des pièces contemporaines avec des modes de jeu qui sont ceux qu'il ne faut pas faire de manière... Enfin, je sais pas, je pense à l'archet droit, jusqu'au moment où... où l'archet passe derrière le chevalet et où plus le son grince et mieux c'est. Mais il y en a qui préfèrent d'ailleurs, il y en a qui adorent travailler ça. C'est drôle. Et puis pareil sur la gestuelle, enfin la musique contemporaine, moi ça m'a apporté beaucoup de liberté aussi physique, enfin une espèce d'investissement physique qu'il n'y avait pas en classique ou à l'orchestre où on n'est pas censé trop bouger, même ça peut être gênant. Hein, En contemporain, c'est vrai qu'il y a un investissement physique de par déjà les extrêmes de la main gauche ou les extrêmes de l'archet où il faut jouer de haut en bas. Il faut aller
chercher le son. Quoi.
Voilà, donc voilà, physiquement, rien que physiquement, c'est vrai que pour atteindre ces sons-là, il faut se bouger. Et puis même les nuances extrêmes, les parties, les ruptures, les choses qui sont. Un peu surhumaine parfois, enfin je sais pas comment dire, mais ça fait qu'on peut pas être robotique, on peut pas être sur mode automatique, on peut pas jouer comme on jouerait je sais pas, une montée métronomique complètement, enfin qui est nécessaire aussi parfois, hein, bien sûr, mais il y a une je sais pas, dans la respiration, dans la puissance ou au contraire dans les extrêmes de souffle, etc. Enfin il y a ouais, physiquement ça change, c'est clair que c'est... Et c'est libérateur quand on revient. Ouais.
Et en plus, c'est profitable pour quand tu retournes au classique, pour l'exigence de qualité de son.
Oui, bien sûr. Alors, le son quand il est malmené, en tout cas, quand il est tordu, il y a des torsions, il y a des recherches. Moi, j'ai besoin quand même de l'aplatir à nouveau. Avec des choses,
de le lisser,
de savoir faire aussi une régularité, une sorte d'aplat qu'il y aurait eu après des montagnes russes, quoi. Enfin, donc c'est ça, avec une bonne nuance, avec une richesse égale, avec quelque chose de plus régulier. Moi j'en ai besoin, mais c'est à nouveau ce petit retour aux sources. Et puis mais ça nourrit dans l'interprétation du classique, ça nourrit énormément d'avoir cette précision du texte en contemporain,
ce nuancier énorme, en fait.
Exactement.
De texture, couleur, dynamique.
Exactement. Et je pense qu'on joue, voilà, on voit pas tout à fait pareil le curseur des nuances, le curseur aussi de toutes les indications des sforzendo, des accents, enfin de toutes les, voilà, de toute la grammaire et puis la ponctuation, surtout la ponctuation. Hein, ça c'est plus parler un peu de rhétorique musicale, etc. Mais y compris en classique, dans Haydn ou ensuite dans Beethoven, effectivement, d'avoir tous ces accents, ces choses à la note, enfin voilà, très, très précises, qui ponctuent le discours, ça nous permet aussi de... Enfin, je pense, ouais, le fait d'avoir autant d'indications sur une note en musique contemporaine, ça nous fait voir aussi en perspective toutes les indications des compositeurs anciens, quoi.
Est-ce que la question des publics, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie ?
Oui, c'est vrai que le fait de m'être aussi déplacée hein, dans, par exemple, bon, le monde théâtral, même si c'est un milieu culturel, on joue sur les scènes nationales, etc. Donc c'est quand même toujours aussi peut-être des publics un peu précis, mais néanmoins, le public de théâtre est un peu différent du public de la musique classique. Moi, j'avais quand même un petit questionnement hein, par rapport à la question de pour qui on joue, pourquoi on a appris, on a fait tant d'années, de décennies, d'heures de travail, d'études pour jouer finalement pour qui, enfin, et est-ce que c'est toujours pour les mêmes, et est-ce que c'est toujours pour les mêmes âges, pour les mêmes classes, enfin, pour les mêmes salles. Et ça me posait un peu problème quand même. C'est aussi sûrement la raison pour laquelle je suis pas rentrée en poste quelque part. Enfin voilà, j'ai en tout cas laissé de côté cette vocation aussi de musicienne d'orchestre en tout cas dans une salle particulière, etc. C'est vrai que le public de théâtre est un peu différent. Je pense que c'est pas tout à fait le même que le public de musique classique, c'est peut-être un peu moins élitiste entre guillemets, même si on reste dans une culture quand même assez intellectuelle, enfin un monde peut-être qu'il faut déplacer, enfin qu'il faut pas oublier de déplacer quoi, bien sûr. Mais moi je suis très attachée toujours à transmettre et à aller jouer aussi au jeune public. À faire des ateliers, enfin, je suis toujours partante aussi dans une ville pour en profiter pour pas faire juste le spectacle, mais faire un atelier, toujours dans cette idée qu'ils puissent nous regarder faire et puis qu'on puisse aussi nous les regarder faire. Enfin, il y a énormément de choses qui nous apportent. Enfin, par exemple, je pense aux collégiens ou lycéens quand ils ont l'occasion de venir par classe, par exemple, et qu'on travaille ensemble sur l'œuvre. Par exemple, pour le Crocodile Trompeur, j'avais fait tout un atelier de théâtre, même si je suis musicienne, mais voilà, d'après l'histoire de Didon est née, et aussi d'après justement cette notion du texte, de la partition, enfin de leur partition à eux, d'improvisation, enfin il y a tellement de ponts à faire. Donc voilà, cette question de public, oui, elle m'intéresse, et puis... Elle est très importante dans les enjeux d'aujourd'hui, je pense même dans les enjeux de territoire justement, et de pouvoir apporter le plus largement possible toutes ces ramifications de... Enfin, on a la chance en fait d'être des musiciens en freelance, enfin, qui pouvons du coup naviguer aussi d'un public à l'autre, donc c'est... En tout cas, moi, je le ressens beaucoup.
Et si tu avais la possibilité de créer un programme pédagogique de A à Z, qu'est-ce que tu souhaiterais mettre dedans ?
Pour un concert ? Pour un...
Non, je pensais plutôt à une école, mais j'ai dit exprès pas école, parce que ça insinue un bâtiment et quelque chose de très fixe qui peut du coup orienter ta pensée. Mais...
Ah, c'est une bonne question. Je pense que y aurait de l'improvisation dès le début, en fait, dès les premiers pas à l'instrument, l'initiation. Même d'ailleurs, il y a pas mal d'élèves quand ils arrivent même pour l'initiation, ils commencent par improviser puisqu'ils peuvent pas faire autrement. Et en fait, j'ai vu souvent même des petits qui très spontanément sortaient des sons, enfin improvisaient, etc. Enfin, ou des petits autour de moi d'ailleurs, et dont les parents avaient peur du coup que le professeur ou que le, enfin en tout cas que le cours plus plus d'apprentissage de l'instrument, enfin, viennent brimer un peu cette créativité qu'ils avaient. Donc c'est intéressant quand même de se dire qu'en fait, en cadrant et en allant vers un savoir-faire assez exigeant, évidemment, d'apprendre le violoncelle, bon, c'est...
Oui, bah, le violoncelle, avec tout l'héritage qu'il draine, c'est pas le seul instrument à avoir un héritage, hein. Je pense qu'ils ont, tous leur histoire, et... Et c'est vrai que on est un peu coupé en deux, parce que, comme toi, j'aimerais énormément pouvoir développer cet aspect dans une classe, la créativité, l'écoute du sonore, la disponibilité à l'autre, et en même temps, voilà, sur un temps de cours qui est vraiment très très bref, hein, on a une demi-heure de face-à-face pédagogique pendant, en tout cas moi, pendant 6 ans, j'ai besoin de leur transmettre aussi l'héritage du violoncelle. Mmh. Ça fait aussi partie de mes missions, de faire du feuillard et du pop-air et des suites de Bach. Enfin, ça fait partie de la culture générale du violoncelle, si je puis m'exprimer ainsi. Mmh. Et donc, ouais, c'est un peu un grand écart pour nous, qui faisons les deux dans nos vies.
Ouais.
C'est-à-dire, alors l'archer, si tu veux jouer cette musique-là, tu vas le tenir comme ça. En revanche, si tu veux commencer à faire scrunch, là, il va falloir trouver des techniques pour gérer ta surpression.
Exactement.
Sans te faire
mal. Exactement. Bah, c'est vrai qu'ils s'en rendent compte, même avec les pièces de premier cycle. Et un Ponticello, ça se contrôle autant que...
Ouais.
Voilà, qu'un son ordinario. Mais c'est... Ça s'apprend. Mais c'est vrai que, voilà, spontanément, quand ils vont improviser, ils vont être plus libres dans leur corps, etc. Et donc, il faut veiller à ne pas les coincer. Alors qu'on leur explique des choses d'une précision pour leur âge qui est quand même très importante, quoi. Bon, les positions de la main gauche, on a des étiquettes au premier cours, ensuite on enlève les étiquettes, donc c'est que la mémoire digitale, la mémoire de l'oreille, et pour l'archet aussi, enfin voilà, chaque doigt est placé d'une telle manière, etc. Donc on leur demande beaucoup, et moi je cherche à ce qu'ils aiment reproduire ça, et puis surtout leur donner la soif du résultat aussi, enfin du résultat très court, même pendant le cours, mais c'est-à-dire, si tu fais ça, tu auras ce son-là, et donc que ça leur donne aussi envie ensuite à la maison de reprendre le violoncelle, parce qu'en fait, très souvent aussi, tant qu'ils apprennent le morceau, ils aiment pas travailler, puis une fois qu'ils connaissent le morceau, là, ils aiment le jouer. Donc c'est aussi, voilà, ces étapes-là qu'il faut aimer, et qu'on est là pour ça, mais pour les accompagner, mais c'est vrai qu'il faut toujours aussi être dans le contrôle, mais tout en les laissant toujours quand même libres aussi d'exprimer quelque chose. Moi je les fais beaucoup chanter, hein, donc et j'avais fait mon mémoire de CA d'ailleurs là-dessus, le chant et l'oreille du jeune violoncelliste. Donc avec tout un rapport d'expertise, etc., comme demandé, mais le fait de les faire chanter à un ton et demi, et ensuite de poser la main gauche et de se rendre compte, quand ils ont chanté quand même la plupart, je ne sais plus quel pourcentage exactement, mais est extrêmement gêné. Une fois qu'il a réussi à chanter juste, l'élève est extrêmement gêné de jouer faux, alors qu'avant ça ne le dérangeait pas. Donc c'est cette prise de conscience, en fait, qu'on cherche à donner, quoi.
Je repensais au fait que l'impro, c'est aussi essentiel pour la construction du discours, en fait, et d'être présent à ce que tu dis. Avec l'impro, tu sais ce que tu vas dire, quand tu vas le dire, comment tu vas le dire, tout en l'inventant immédiatement. Et c'est un peu l'idéal vers lequel on tend avec une partition. C'est, tu sais ce que tu vas dire, mais on va garder cette fausse spontanéité pour l'intention, pour la durée de ton silence que tu vas faire exprès, un tout petit peu trop durer pour que ton premier temps, il arrive comme un coup de poing derrière.
Exactement.
Et ça, c'est vrai que si tu le brimes chez un élève dès le début, c'est peut-être un peu difficile à reconstruire. Cela dit, c'est faisable.
Oui.
Mais pas évident. Enfin, c'est long.
C'est long, et puis c'est beaucoup d'aller-retour. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas... Enfin, on peut pas être dans un long fleuve tranquille, ni dans une progression qui serait linéaire ou qui serait uniquement ascendante. Mais ouais, c'est beaucoup de petits allers-retours, c'est ça, pour pas les perdre en route. Et puis y a des niveaux aussi plus difficiles que d'autres. Le but, c'est quand même qu'ils continuent aussi le plus longtemps possible et qu'ils puissent ensuite s'éclater voilà, ouais. Adultes, amateurs, enfin voilà, il y en a, hein, il y a beaucoup d'orchestres et tout qui sont là, et pour mener à ça, c'est déjà avoir su ne pas le couper de son voilà, de sa créativité, quoi, et de son désir, enfin, malgré toutes ces contraintes.
Est-ce que pour toi, il pourrait exister un territoire idéal que tu as le droit de rêver? Non.
Musical?
Dont tu as le droit de rêver? Pas forcément, non. Je pense vraiment territoire au sens de la définition que tu as donnée au début de l'émission. Est-ce que c'est Paris, ton territoire idéal, finalement?
C'est pas forcément Paris, mais c'est la somme... C'est la somme de, voilà, des projets que j'aime, quoi. Un peu. C'est vrai. En mieux, parce que je voudrais évidemment toujours aller plus loin. Enfin, aller... Pas mieux, mais aller plus loin. Mais... C'est une sorte de tissage entre tous les projets qui seraient comme, je sais pas, mis devant soi et puis qui s'infuseraient un peu les uns les autres. Je sais pas comment dire. Et en même temps, c'est aussi faire table rase, enfin... Je sais pas, c'est ça que je vois aussi, de faire table rase, de faire, par exemple, je sais pas, je rêve d'une traversée atlantique où je verrais que la mer pendant des semaines et rien d'autre. Et en même temps, où je rêve d'un chemin où il y a que nos jambes qui nous portent et de paysages qui sont visibles que à pied et qui sont, voilà, enfin... très très varié, un peu dangereux aussi, et où on aime se perdre, enfin
prendre la mer, tu pourrais, tu sais,
enfin, je sais... ne sais pas, mais je sais que ça me plairait. Oui, j'avais marché en Bretagne, j'avais vu la mer pendant des jours et des jours, l'horizon pendant des jours et des jours à ma droite. Ouais, ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, de voir le rien. Enfin, le...
Oui, on n'a pas beaucoup parlé de la Bretagne, alors qu'en préparant l'émission, tu m'en as parlé.
C'est vrai. Bah, on avait une maison dans le Finistère quand j'étais petite, et où j'ai des souvenirs très forts d'avoir appris à faire du vélo, à nager... sur une plage qui était dangereuse et qui est maintenant interdite d'ailleurs de baignade en raison des courants violents, des sables mouvants, voilà, des éléments qui se déchaînent là-bas. Et donc ouais, je suis restée très attachée à ce coin. Donc on a dû vendre la maison quand j'étais petite, parce que voilà, mes parents avaient plus d'argent à ce moment-là. On a continué à y aller ensuite en camion, en camping, passer devant la maison. Coucou la maison. Et on y est retourné là depuis quelques années. On loge en auberge de jeunesse. Enfin voilà, on continue à aller à cet endroit-là. Et on a même visité notre maison l'année dernière, qui était en vente, mais qui était au prix de mon appart à Paris. Donc je me suis résignée. Mais en tout cas, voilà, ces horizons, ces éléments qui se déchaînent, ouais, l'océan, un peu la dangerosité aussi de ce coin. Les falaises, les paysages un peu accidentés, enfin, c'est très inspirant, très et ça calme aussi, ça calme beaucoup. Moi, je marche beaucoup, donc voilà, j'ai marché au bord de la mer, j'ai marché aussi en montagne, pas mal, en faisant des tours dans les Alpes, dans les Pyrénées. Et donc, ce sont mes territoires. Et d'ailleurs, j'écoute assez peu de musique quand je suis en marche, sauf quand c'est très difficile où je me mets je mets mon iPhone et du coup j'ai la musique qui résonne dans la montagne, pour moi toute seule. Et il en faut aussi des moments comme ça, je pense. Ça me ressource, parce qu'on rencontre tellement de gens dans l'année. La vie de troupe, comme j'en parlais, j'adore la vie de troupe, la vie de tournée. Et voilà, et j'adore parce qu'il y a un retour et parce que ça se termine un jour et que... Donc c'est un équilibre à trouver qui n'est pas, voilà, qui n'est pas du tout un planning régulier, qui, voilà, c'est pas des horaires réguliers, c'est beaucoup de voyages et tout, mais bah, le fait que ça s'enchaîne et que ça varie, enfin, c'est comme des paysages, quoi, en fait. C'est mes territoires de, voilà, de... artistiques, c'est vraiment comme des paysages. C'est vrai, c'est varié, ça s'enchaîne bien. En fait, je trouve la fluidité là-dedans.
Et de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir chez toi ?
C'est vrai que Paris, le fait que j'ai mon appart ici et que donc même si je bouge beaucoup et que en fait je pourrais partir un peu quand je veux et le temps que je veux. Enfin, j'ai ce luxe-là en étant en freelance, mais le fait d'avoir mon appart à Paris, ma famille ici, c'est sûr que je me sens très chez moi à Paris et plutôt en sécurité. Enfin, je me sens chez moi. Ça m'est très familier. C'est là que j'ai grandi, donc c'est vrai que c'est drôle. C'est pas le même arrondissement. J'ai l'impression que c'est un autre pays, mais c'est pas loin de chez moi.
Toi, t'es dans le 20e.
Ouais, je suis dans le 20e, mais je retourne pas pas beaucoup là où j'étais avant, dans le 12e.
Ah oui, alors que c'est vraiment juste à côté.
Oui, c'est à côté. Oui. Ouais. Alors quand jusqu'à mes 5 ans, j'étais à Ivry. On était dans une maison. Mais on a été expropriés quand j'étais petite. Donc, ouais, c'était un événement difficile. Pour mes parents, hein, plus que pour nous. Que la maison a été rasée et du coup, on s'est retrouvés en appart très, très rapidement dans une sorte de grand cabinet, un ancien cabinet de kiné. Parce qu'on était très nombreux, on était 8, puis 7, puis 6, puis 5. Mais... on était une famille nombreuse de 6 enfants, donc il fallait loger tout ce petit monde dans un... Voilà, rapidement. Oui. Mais voilà, donc c'est là que j'ai passé aussi une partie de mon enfance. Mais pour revenir à voilà, où je me sens chez moi, donc Paris, bien sûr, Paris. Et puis quand je marche, enfin je sais pas, sur les chemins que j'emprunte, je me sens chez moi aussi.
Avec un violoncelle.
Pas c'est un sac à dos, mais c'est tout aussi encombrant. Oui, quand je l'ai pas sur le dos, je me sens... j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais je ne dois pas être la seule. avec un violoncelle, pourquoi pas? Mais bon, non, c'est bien de le laisser aussi de temps en temps, le violoncelle. Ça fait du bien.
Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu souhaiterais aborder?
Pour boucler la boucle, j'ai envie de parler là, du dernier projet que j'ai fait, de la résidence que Claude j'ai faite la semaine dernière voilà, sur Claude Vivier, parce que... ça me permet justement de... Je parle beaucoup de grand écart parce que c'est l'impression que j'ai dans la tête souvent dans les projets de faire des choses variées et de me sentir bien dedans. Et donc c'est vrai que voilà, la musique, le théâtre, la création, le fait de regarder les spectacles, c'est vrai que quand je suis en tournée ou quand je joue 150 fois la Traviata ou quand je joue... de nombreuses fois aussi, je sais pas, le crocodile trompeur, enfin, ou sans tambour, récemment. J'adore regarder le spectacle. Presque autant qu'être sur scène. Enfin, j'adore être sur scène, hein, j'ai besoin d'être sur scène, vraiment. Mais j'aime beaucoup aussi regarder, d'un soir sur l'autre, ce qui a changé, ce qui s'est modifié, etc. Et donc, enfin, toutes ces observations et aussi... de l'imaginaire, de ce compositeur, mais j'avais d'autres idées de spectacle en tête. Tout ça m'a donné envie aussi de passer un peu de l'autre côté et de mettre en scène, de trouver des gens qui acceptaient déjà de me suivre et de mettre en scène ce spectacle sur Claude Vivier où du coup je relis un peu l'itinéraire au monde un petit peu de théâtre dans lequel j'évolue. Et donc, voilà, j'ai rassemblé plein de textes. J'ai travaillé pendant presque... plus d'un an, là, sur des traductions de biographies de Claude Vivier, de sa musique, de ses textes à lui, de ses interviews, puis les témoignages de ses amis. Et après, je voudrais faire quelque chose qui n'est pas un documentaire, qui n'est pas un biopic, qui serait plutôt un personnage qui ressemblerait à Claude Vivier. Mais voilà, ce serait pas du tout un aspect documentaire, c'est plus de travailler sur la dissociation qu'il y a dans son esprit, cet écartèlement qu'il a entre l'ombre et la lumière, cette soif de lumière qu'il a, dans sa musique d'ailleurs, qui est très mystique, et aussi toutes les frasques qu'il a eues quand il était adulte. Enfin, il a une vie complètement incroyable, hein, pour un compositeur. Donc il est né au Canada, il est orphelin, et il est accueilli dans une famille avec une grande sœur quand il a 2 ans et demi, et ensuite il était sourd et muet jusqu'à ses 6 ans. Donc c'est déjà un premier parcours de vie assez chargé, on va dire. Donc une vie marquée vraiment de choses assez traumatisantes. Il a subi un inceste aussi par un membre de sa famille pendant que sa famille était à la messe, donc famille très traditionnelle. Ensuite il est rentré au collège mariste pour devenir prêtre. Et il s'est fait plus ou moins renvoyer de ce collège. Ensuite, il découvre la composition. En même temps, il découvre son homosexualité. Voilà, donc il quitte l'idée de devenir un homme d'église. Mais il est resté quand même très croyant. Et voilà, avec tout ce passé qu'il a, il compose une musique très mystique, très, très, très en homorythmie, en très monocorde, enfin, et même assez monotone, en fait. Hein, faut rentrer dedans, hein, c'est très spécial. Et il cherche toujours la pureté dans sa musique, enfin, il insiste beaucoup là-dessus, la pureté, la lumière, avec des mots-clés toujours, qui sont la foi, la vie, l'amour, la lumière, la berceuse de la mère qu'il n'a pas eue, l'enfance, la solitude. Voilà, donc tous ces sujets qui en font un sujet de théâtre, évidemment, très foisonnant, même un peu inquiétant, enfin. Et donc cette dissociation qu'il a dans l'esprit, où il a comme un voile entre lui et la réalité, enfin, c'est ce qu'il dit. Et puis sa musique très pure, ayant lui-même étudié avec des compositeurs de musique contemporaine, Stockhausen, Darmstadt, et puis ensuite lui-même est collègue de compositeurs spectraux, comme Grisé et Murray justement. Et d'ailleurs l'ensemble itinéraire a joué des œuvres de Vivier dans les années 70, donc du coup ça fait aussi, c'était assez beau aussi de réunir un peu son... Enfin, de boucler cette boucle-là aussi. Et donc, bref, du coup... Claude Vivier, avec cette vie parisienne aussi, cette vie de nuit, cette vie nocturne, où il prend beaucoup de risques, il fréquente les bas-fonds, les bars gays de Belleville, et il a des mauvaises fréquentations, et il finit par tomber sur un serial killer. Donc, il se fait assassiner en 83, à 34 ans, par un serial killer qui était un peu spécialiste de cambrioler, de voler les homosexuels et de les tuer. Donc voilà, c'est assez glauque, hein. C'est une histoire assez dure et qui déteint complètement avec cet univers qu'on peut se faire, enfin voilà, l'univers de la musique contemporaine un peu mondaine qu'on peut s'imaginer dans le Paris de ces années là
Et ça ressemble à quoi sur scène?
Pour l'instant on n'a pas, enfin on a fabriqué un décor un peu de briques et de broc avec la résidence qu'on a obtenue au Théâtre de l'Aquarium. Donc on a passé une semaine. Donc il y avait une chaire d'église, il y avait une fausse cabine insonorisée d'ingénieur du son, parce que je voulais faire une scène avec un enregistrement de musique de Vivier pour permettre aussi justement d'expliquer sa musique avec des mots plus simples et plus directs, très précis et courts, comme en enregistrement. Et puis il y a une petite chambre qui est l'appart de Claude Vivier, là où il reçoit ses amis, là où il ne sait pas où sont les choses, ni le sucre ni le sel, et oui, il vit un peu en camping. Alors lui, on ne sait pas trop où est-ce qu'il se sent chez lui. C'est vrai que c'est... D'ailleurs, je voulais un toit aussi pour la scène, un toit pour qu'il ait un toit sur la tête, cet enfant. Mais j'ai réuni une équipe avec 2 acteurs, du coup Maxime Kersanet et Pierre Andreau, un chanteur Florent Baffy et une flûtiste de l'itinéraire Julie Brunet-Jailly. Il y aura aussi une violoniste Apolline Kerclair qui nous rejoindra. Et il y a une grande amie à moi, scénographe, qui s'appelle Amélie Vignals. Et voilà, donc on est tous maintenant dans ce même bateau, et c'était très agréable cette première semaine de travail. On a rendu un bout à bout d'une heure. Qui est un beau chantier, qui reste un chantier, mais on a hâte de la suite.
Et toi, t'es dedans? Ou t'es que...
Je serai dedans, à la base, enfin, voilà, ouais, une sorte de basse continue qui va un peu filtrer les informations de la vie de Claude Vivier, enfin qui va jalonner un peu ce parcours, et puis peut-être que je serai aussi une cantatrice. On verra, si j'ose.
Génial. Est-ce qu'il y a des lieux culturels que tu souhaiterais recommander?
J'étais à Royaumont ce week-end. Donc, c'est sûr que l'abbaye de Royaumont et puis tous ces projets qui sont côte à côte. Là, on était à côté de Fabio Biondi. On était en week-end incubateur avec Garth Knox, avec l'itinéraire Un altiste contemporain. Et on a fait des recherches musicales d'après la langue maya. Donc sous forme de sorte de prosodie, d'imitation, d'improvisation. On cherchait à faire ressembler à la langue maya. Et on a aussi dit des poèmes en français, en espagnol et en maya.
Maya est une langue encore vivante,
pardon. Oui. Il y a quand même beaucoup de populations qui la parlent au Mexique, je crois, et au Guatemala, il me semble. Et puis c'était Valentina, j'ai plus son nom de famille, la femme de Garth Knox, qui est ethnologue et qui a habité énormément avec les Mayas depuis qu'elle a 23 ans. Et donc qui nous a apporté des poèmes d'une certaine Briseida. Voilà, donc une poétesse. Et donc les poèmes sont traduits en espagnol de manière à pouvoir les exporter, mais voilà, ils sont en Maya, donc on a entendu la version Maya. Très jolie langue, très douce, avec des bruits un peu gutturaux, et voilà, donc qu'on cherchait à imiter avec nos modes de jeu à nous. Voilà, donc c'était le dernier week-end à Royaumont, donc Royaumont, je pourrais recommander. Il y aurait l'IRCAM, qui n'est pas rentré quand même dans ce lieu. C'est sûr que l'espace de projection, les concerts, ils sont quand même assez exceptionnels, les dispositifs. Et puis... la forêt, où j'avais joué dans un projet de Grégoire Lorieux, qui est co-directeur artistique de l'itinéraire, qui a développé un projet en forêt d'Orient, à côté de Troyes, et où on a fait un rendu, avec une composition de Grégoire Lorieux. J'avais fait une improvisation qui s'appelait Feral, une sorte de nocturne où j'étais en improvisation dans la forêt, donc en marchant, en étant posée sur un arbre. Il y a une biche qui passait à un moment. Enfin voilà, c'était tout très, très onirique aussi, très poétique. La nuit, avec quelques gouttes de pluie d'ailleurs. Et le bruit de la forêt, le son de la forêt, c'est assez impressionnant. La musique de la forêt. Déjà évidemment la musique du vent, des oiseaux, mais aussi le fait que le son résonne. Entre les troncs d'arbres, il y a vraiment une espèce d'acoustique beaucoup plus résonante que du plein air dans un champ.
Qu'on n'imagine pas forcément.
Ouais, il y a de l'écho, il y a une certaine réverbe. C'était vraiment agréable. Et puis à la Mège, on est allé à la Mège pour l'anniversaire de l'itinéraire en juillet. Et là, il y a eu aussi, pareil, un projet de Grégoire qui s'est terminé sur un lac. À bord de barque pour certains, le corniste, le bassoniste, qui était sur une barque.
Pas toi.
Près de la maison de Messian. Non, moi j'étais juste sur le rivage, cette fois-ci. Mais c'est vrai que la création, ça amène aussi à jouer dans des endroits incroyables comme ceux-là. Enfin, il n'y a que... en musique contemporaine que j'ai fait ça, ou en impro, où on peut se lever, où on peut... Et sur des plateaux de théâtre, évidemment, là où tout est possible.
Pour finir, qui aimerais-tu entendre à ce micro?
Là, tout de suite, je pensais à Jean-Baptiste Doulcet, un pianiste, un grand pianiste, avec qui j'ai eu la chance de jouer des sonates de Beethoven, justement, à l'Aquarium. Jean-Baptiste Doulcet, qui est aussi très, très cinéphile, qui est quelqu'un qui a beaucoup de centre d'intérêt, en dehors du piano, et qui parle beaucoup d'imaginaire sonore, et beaucoup aussi en imaginaire visuel, comme il est aussi critique de cinéma, et je crois qu'il a fait un disque sur les musiques un peu fantastiques. Je dirais Jean-Baptiste Doulcet, Guillaume Fabre aussi, un autre ami pianiste avec qui j'ai joué aussi un cycle de Beethoven, qui lui a un camion scène qui s'appelle Unopia. Donc c'est un très très beau projet. On a joué à la cartoucherie dans le jardin l'été dernier. Donc pareil, il y avait des enfants, des chaises longues, et puis on a joué du Beethoven dans son camion scène où il y a un piano installé. Et donc lui, il sillonne un peu aussi la France. Il joue autant dans des forêts que sur des places de village, etc. Donc ça peut être intéressant.
Des vraies questions territoriales.
Oui. Ouais, exactement. Et il fait aussi beaucoup de théâtre. Donc on s'est retrouvés avec des jolis points communs et aussi une soif de jouer un peu ailleurs et de voir la musique autrement.
Génial. Bien, merci Myrtille de t'être prêtée au jeu.
Merci beaucoup à toi pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et lui mettre 5 étoiles. Quant à moi, je vous souhaite bon vent et je vous dis à bientôt dans la carte et le territoire. Secours.